À l'océan ?
I hope for your help.
Bon, ça c'est le générique que vous connaissez, c'est celui de toute l'année. Mais là, on est sur un numéro hors série, donc on n'a vraiment pas le temps. Alors prenez vos palmes et votre masque et on y va. Hop 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 là ! Aujourd'hui, c'est un numéro exceptionnel d'À l'océan, car je suis avec le plongeur scientifique et photographe biologiste Pascal Girard. Pascal, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Merci d'avoir accepté de venir nous parler de ta passion dans À l'océan. Alors, je suis hyper heureuse de ta venue et surexcitée, car aujourd'hui, on va parler d'animaux que moi j'aime beaucoup, ce sont les nudibranches. Est-ce que tu peux parler à l'enfant qui est en nous et nous décrire ce que sont les nudibranches ?
Alors, les nudibranches, ça ressemble à de petits Pokémon, en fait. Ce sont des petites créatures fantastiques qui vivent sous l'eau, oui. À partir du grand groupe des mollusques. Et elles ont des formes et des couleurs incroyables.
Ok, d'accord. Donc, il y en a énormément. Alors, tu as écrit plusieurs guides d'identification de poissons. Tu as participé à plusieurs revues scientifiques sur le sujet. Tu as fait des conférences différentes sur plein d'espèces marines. Et pourtant, lorsqu'on s'est rencontrés, je t'ai proposé de venir dans l'océan. Tu m'as tout de suite proposé, dit « Oh, on pourrait parler de nudibranches ». Du coup, je me suis demandé qu'est-ce qui te passionne ou qui te surprend sur ces animaux, en fait.
Alors en fait, ces animaux sont incroyables. Comme tu l'as dit, il y en a des milliers. Il y en a plus de 3000 aujourd'hui décrites dans le monde. Et ce sont des animaux qui passionnent les plongeurs, qu'ils soient curieux, biologistes ou tout simplement photographes. Mmh. Donc ces animaux très intéressants. Alors ils ne font que quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres, c'est pas très très gros, mais ils ont des couleurs et des caractéristiques vraiment intéressantes et passionnantes.
Ok, et est-ce qu'il y a une caractéristique qui te vient en tête de te dire, ah là là, celle-là, elle est vraiment ouf sur une nudibranche ?
Oui, alors il y a par exemple la godive orange, la godive de Banyuls, qu'on voit en Méditerranée et qui a une chevelure orange, on dirait qu'elle est enflammée, une chevelure de feu. Donc c'est vraiment un animal absolument incroyable à observer.
Ah, trop bien. Tu l'as dit, il y a plus de 3000 nudibranches dans le monde. J'imagine que tu as une préférée, non ?
Oui, alors ma préférée, c'est la Doris dalmatienne. Alors, elle porte bien son nom parce qu'elle est blanche avec plein de petites taches brunes un peu noires. Et c'est ma préférée, pourquoi ? Parce que c'est la première que j'ai observée quand j'ai commencé la plongée il y a plus d'une dizaine d'années. Mmh. Et elle m'a vraiment marqué. Ça m'a donné un peu l'envie de découvrir tout ce monde des nudibranches et autres limaces de mer.
Tu nous l'as dit, est-ce qu'elle est grosse ou pas, la Doris dalmatienne, ou c'est
Alors c'est une espèce qui est facilement visible parce qu'elle est blanche avec des points noirs, donc on la voit de loin et elle peut mesurer jusqu'à 12 cm de diamètre, donc une forme arrondie.
Et
on a parlé de nudibranche, mais qu'est-ce que ça veut dire nudibranche ?
Oui.
Peut-être une petite parenthèse à ce niveau-là, ça veut dire qu'elles ont leurs branchies à nu exposées à l'eau. Donc leurs branchies leur servent à respirer. Et ces nudibranches ont un corps avec des branchies qui ne sont pas protégées par une coquille comme pour les escargots.
D'accord. Ok, donc c'est ça qui fait un peu leur... elles ont une sorte de plumeau qu'on peut voir, c'est ça ?
Pour certaines, elles ont un plumeau à l'arrière du corps. Pour d'autres, elles ont une sorte de chevelure, comme je l'ai évoqué pour la godiva, sur leur corps, sur leur manteau. Donc il y a plusieurs organisations possibles pour l'emplacement des branchies chez les limaces de mer en général.
Ah oui, d'accord. Donc c'est ça aussi qui fait leur différence de couleur et de forme, c'est finalement cette différence de position de branchie, quoi.
Il y a ça, et puis en fonction de ce qu'elles mangent, ça peut donner une coloration différente à leur chevelure, par exemple. Pour les nudibranchés oulidiens, les limaces qui ont une chevelure dans le dos, la couleur de cette chevelure peut varier en fonction de leur alimentation.
Alors ça tombe bien que tu nous aies parlé de la Doris dalmatienne, car dans mes épisodes, j'aime bien parfois créer des personnages et donner ainsi la voix à des espèces marines. Alors je te propose de te prêter au jeu aussi et de nous décrire la vie de la nudibranche, donc peut-être de la Doris dalmatienne qui est ta préférée, avec ses habitudes, de sa naissance à sa mort, son mode de vie, sa nourriture, sa reproduction, ses prédateurs, mais en mettant à sa place, donc en parlant un peu en jeu. Est-ce que tu es OK ?
On va essayer.
OK, super. Donc, bienvenue Doris dalmatienne. Pouvez-vous nous parler de vous ?
Oui, alors je vais vous parler de moi. Moi, petite Doris dalmatienne, donc je vis sous l'eau. J'aime pas trop la lumière. En général, j'aime bien être caché dans les trous, dans les renfoncements, dans les grottes. Mmh. Et moi, ma nourriture préférée, ce sont les éponges.
OK.
Donc, notamment l'éponge pierre. Donc, j'adore, je raffole de l'éponge pierre. Et quand je la grignote, ça laisse une trace très visible et les plongeurs peuvent me repérer grâce au fait que je grignote avec ma langue râpeuse l'éponge.
D'accord.
Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Je vis à peu près une année maximum.
Ah oui,
donc j'ai une durée de vie assez courte, je ne vis pas très longtemps. Par contre, j'ai des moyens de défense très efficaces contre les prédateurs, contre les poissons notamment. J'ai des épines dans mon corps.
Ah bon ?
Donc les poissons, s'ils me croquent, ils vont se piquer le palais, ils vont se piquer dans la bouche et ils vont me recracher.
Ah oui, d'accord.
Donc, c'est une sorte de protection. Une
sorte de hérisson interne, un peu.
Exactement.
Comme... Okay.
Donc j'ai plein d'épines dans mon corps pour me protéger, mais j'ai mieux que ça. J'ai aussi des toxines que je récupère des éponges que je mange. Je vais stocker des toxines dans mon corps pour me rendre incomestible.
Ah oui, ok.
Et en plus, je suis hyper visible.
Ben oui, c'est
donc
ça.
Donc les poissons, ils sont habitués à ma couleur, à mon aspect, et ils savent qu'il ne faut absolument pas essayer de me croquer.
Ah oui, donc vous avez quasiment plus de prédateurs avec ces super systèmes.
Exactement.
Ah ouais.
Exactement. Quand on est adulte, quand on est une limace adulte, on n'a quasiment aucun prédateur, parce qu'on a énormément de mécanismes de défense, en général ils sont multiples.
Mmh.
Alors que quand on est au stade larvaire ou juvénile, on n'a pas encore développé ces moyens de défense, et là on est très vulnérable par rapport à la prédation.
Ok. Et quand vous reproduisez, ça se passe comment? Vous pondez des œufs ou vous êtes... comment ça se passe?
Alors, je suis à la fois mâle et femelle.
Ah bah,
ça se voit pas, mais voilà, je suis à la fois mâle et femelle. Les limaces de mer sont hermaphrodites, synchrones, on appelle ça. Ça veut dire qu'elles sont mâles et femelles tout au long de leur vie. Elles ne vont pas changer de sexe comme le font certains poissons,
ouais,
qui commencent mâles et finissent femelles ou inversement. Ça veut dire que j'ai simplement besoin de trouver une autre limace de mer de mon espèce pour pouvoir se reproduire.
Okay.
Donc, pour les nudibranches, on va se mettre en tête bêche, de manière, parce que nos organes génitaux sont sur le côté droit.
Okay.
Donc, on va se connecter comme ça, en tête bêche. Ensuite, donc chacun va être fécondé.
D'accord.
Et les deux individus vont pouvoir les pondre de leur côté.
Ah oui, ok.
Donc, les limaces de mer pondent des œufs.
D'accord.
Voilà, ça pond des œufs. Et il va falloir à peu près un mois pour que les œufs puissent éclore. Et il y aura plein de petites larves qui vont d'abord être dans l'eau,
oui,
avant de se fixer sur une éponge, sur leur proie en fait,
okay,
de manière à commencer leur développement.
Et vous ne mangez que l'éponge pierre alors? C'est assez spécifique.
Alors j'aime bien aussi l'éponge orange.
Ah, ok.
Mais c'est vrai qu'en général, moi en tant que Doris Dalmatienne, je ne mange que l'éponge pierre et l'éponge orange. Mais en fonction des espèces, il va y avoir une ou plusieurs proies spécifiques. Et en fait, chaque limace de mer a une ou plusieurs proies favorites.
D'accord, ok. Elles sont reliées à leur proie en particulier.
Exactement.
Et les proies, c'est surtout des éponges ou ça peut être autre chose?
Alors, le régime alimentaire, il est hyper varié. Donc, les doridiens, les nudibranches doridiens vont plutôt aimer tout ce qui est éponge, alors que celles qui ont une chevelure dans le dos vont plutôt s'intéresser à des animaux qui ont des cellules urticantes qui piquent, comme des anémones, des hydraires, ce genre de choses. D'autres vont carrément s'attaquer aux œufs d'autres nudibranches.
Ah, oula, cannibalisme.
Donc là, c'est un peu.
Peu
du cannibalisme. alors que d'autres vont effectivement manger d'autres organismes, comme des bryozoaires, des choses comme ça. Donc, ou des algues, ou des plantes marines. Donc, il y a un régime alimentaire extrêmement varié chez les limaces de mer.
Ben écoutez, bravo. Bravo, Pascal, pour cet exercice qui n'est pas facile, donc merci. Donc là, du coup, j'ai envie de te poser la question de qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu te retrouves un jeudi matin à faire la nudibranche à la radio, en fait.
Alors clairement, c'est ma passion. De manière générale, la biologie marine, c'est une passion. Et parmi tous les animaux que je rencontre sous l'eau, c'est vrai que j'ai un gros coup de cœur pour les limaces de mer, en général, de par leur forme, leur couleur et leur mode de vie très, très intéressant. Et en Méditerranée, il y a plusieurs centaines d'espèces qui ont des couleurs et des formes qui n'ont rien à envier avec les espèces tropicales.
Oui.
Donc il y a vraiment un terrain de jeu incroyable en Méditerranée avec des espèces que j'invite tout le monde, tous les plongeurs à découvrir.
Oui. Du coup, tu l'as dit, c'est ta passion, ça fait plusieurs années que tu plonges. Moi, je plonge aussi et j'aimerais savoir qu'est-ce que toi tu ressens quand tu plonges? C'est quoi tes sensations? Pourquoi tu y retournes en fait? Parce que c'est quand même un sport dangereux où on est engoncé, c'est hyper compliqué. Donc qu'est-ce que tu ressens à ce niveau-là?
Alors moi je pense que c'est un sport qui n'est pas plus dangereux qu'un autre. Hein. Effectivement il y a quelques accidents par an, mais il y a des causes qui s'expliquent. Mais globalement, quand on est bien formé, qu'on fait attention à toutes les règles de sécurité, globalement c'est un sport qui est au contraire très plaisant. On est en apesanteur dans l'eau. Donc, il y a une sensation de liberté, on flotte, on vole au-dessus du milieu. Et après, effectivement, on commence à s'intéresser aux animaux, aux poissons, aux poulpes, etc. Et puis, de fil en aiguille, on en arrive aux limaces de mer. Et quand on en a vu, on a envie de toutes les voir tellement elles sont incroyables.
D'accord. Et alors, tu nous l'as dit un petit peu au début, tu as parlé de la Doris qui était ta préférée parce que c'est celle que tu as rencontrée en premier.
Mmh.
Est-ce que tu as une autre rencontre de nudibranche qui t'a marquée, qui t'a le plus enchantée parmi tes heures de plongée?
Oui, il y a une limace de mer qu'on appelle la Tétis. C'est le plus grand nudibranche de Méditerranée qui peut faire jusqu'à 30 cm de longueur.
Ah oui, c'est une grosse limace.
C'est
là.
Quand même une très grosse limace.
Est-ce que tu peux nous décrire un peu à quoi elle ressemble?
Donc, elle est blanche, un peu translucide. Elle a un grand disque oral, très arrondi, et plein d'une chevelure assez aplatie sur le dos, avec des extrémités noires, oranges. Et on ne peut la voir que la nuit. Et on la voit notamment en Méditerranée, du côté de l'Espiguette, au Gros du Roi.
D'accord.
Plutôt l'hiver, début de printemps. Et uniquement la nuit.
Ah
Donc il
oui.
faut vraiment faire une plongée spéciale pour aller espérer la rencontrer.
Et toi, la première fois que tu l'as vue, ça s'est passé comment?
Ça s'est bien passé. Donc c'était effectivement avec mon binôme, on avait vraiment pour objectif de l'observer. C'était l'Espiguette en plein hiver. L'eau était à 9-10 degrés, hein, donc elle était
Bah.
assez froide. J'avais pas encore de combi vraiment épaisse ou étanche pour plonger dans ces eaux froides. Mais on avait vraiment cet objectif-là en tête. Donc on est parti comme ça à l'aventure à l'Espiguette. Et effectivement, dès les premières minutes, on est tombé sur un premier individu, puis un deuxième, puis un troisième. Il y en avait un peu partout. Il y en avait plein. Et là, c'est vraiment un moment incroyable.
Tu nous as dit qu'en Méditerranée, il y avait beaucoup de nudibranches. Justement, quels sont tes conseils pour ceux et celles qui nous écoutent et qui voudraient peut-être aussi vivre une telle rencontre avec les nudibranches? Et comment on peut faire pour les observer en masque et tuba, parce que c'est quand même le plus accessible.
Oui.
Et surtout, est-ce qu'il y en a qu'on peut trouver plus facilement? Où est-ce qu'on peut les trouver? À quelle période?
Alors effectivement, il n'y a pas besoin de plonger en bouteille pour observer les nudibranches et les autres limaces de mer. Avec simplement un masque, des palmes et un tuba, on peut, sur les rochers notamment, explorer les rochers, prendre le temps de regarder parce que ce sont des animaux assez discrets, ils se confondent bien avec leur milieu. Donc il faut prendre le temps de bien poser son regard, regarder les algues, regarder un peu la roche, regarder près des anémones, etc. Et c'est comme ça qu'on a la possibilité de rencontrer ces limaces de mer qui sont finalement très communes, il y a énormément d'espèces. Donc, il y a vraiment de grandes chances d'en observer à condition de prendre le temps d'observer, de poser son regard.
Dans un précédent épisode d'À l'océan, j'ai parlé du réchauffement des océans et notamment du phénomène des canicules marines qui dévastent les écosystèmes. J'imagine que nos amis nudibranches sont aussi sensibles à ce genre de phénomène et de la hausse de la température des eaux. Mais est-ce qu'il y a d'autres menaces sur elles?
Alors, effectivement, elles sont impactées par le réchauffement climatique, le réchauffement de la Méditerranée notamment. Pourquoi? Parce que c'est surtout leur proie. Qui sont impactés. Donc, s'il y a un impact sur leur nourriture, les anémones, les israires, les anémones, etc., les éponges, forcément, il va y avoir un impact sur les limaces de mer. Et en plus, on voit arriver des espèces qui viennent de loin, qui viennent d'ailleurs, notamment qui
D'accord.
traversent le canal de Suez, on
Oui.
appelle les espèces lessepsiennes, qui vont migrer petit à petit jusqu'en Méditerranée française. Donc, on voit arriver de nouvelles espèces qu'on ne voyait pas avant. Alors, en soi, ces nouvelles limaces de mer, elles ne sont pas dangereuse ou impactante pour la biodiversité locale, mais ça veut dire qu'il y a aussi des algues, des poissons, il y a tout un cortège d'espèces invasives qui arrivent en même temps
OK.
et cet ensemble a un impact sur la biodiversité locale.
D'accord, OK. Et enfin, dans le milieu marin, fait face à plusieurs menaces et c'est souvent les associations et ONG qui sont les premières en ligne pour les protéger. Est-ce que toi, tu as une association qui te tient particulièrement à cœur dont tu voudrais nous parler?
Moi, je fais partie de la Fédération française de plongée, la FFESSM, et on a des programmes de sciences participatives justement pour détecter notamment les espèces invasives. Alors que ce
OK.
soit des limaces de mer, mais tous les animaux marins ou les espèces marines comme les algues qui arrivent. Donc, c'est les détecter le plus tôt possible pour justement alerter les organismes ou les organismes de recherche notamment pour mieux comprendre. Leur distribution, leur évolution dans le temps. Donc il y a un peu ce système d'alerte, entre guillemets, au travers des sciences participatives que l'on peut mener.
Et est-ce que on peut si on il faut s'y connaître un petit peu en biologie pour pouvoir y participer, ou si on voit une espèce, on peut poster une photo, demander ce que c'est
Oui, alors on n'a pas besoin d'être expert, hein. On
Ouais.
peut facilement se tromper et c'est normal. On n'a pas tous la science infuse. Donc oui, il y a plusieurs plateforme où on peut poster des photos. Par
OK.
exemple, je pense notamment au forum du site internet Doris.
Ah oui.
Le forum mystère, ça veut dire que vous postez une photo, vous ne savez pas trop ce que c'est. Et donc, il y a des personnes qui vont vous donner des pistes ou carrément vous indiquer l'espèce en question.
Ah oui, donc c'est super pratique pour pouvoir inclure un peu tout le monde là-dessus, quoi. On arrive à la fin, donc merci beaucoup Pascal de nous avoir partagé tout ça. J'ai trouvé ça super passionnant, ça me donne encore plus envie d'observer les nudibranches. Et on peut te retrouver et te suivre sur Insta et Facebook sous le nom de The Eyes of the Diver, c'est ça?
Pour Instagram, effectivement, et pour Facebook, L'œil du plongeur,
ouais,
qui est aussi le nom de mon site internet.
Oui, que je conseille parce qu'il y a une superbe vidéo en 4K avec tes images de nudibranches où on les voit évoluer dans leur milieu et on voit toutes leurs couleurs. C'est assez, assez impressionnant. Est-ce que tu as une autre actualité dont tu voudrais nous parler ?
Oui, alors, il y aura une conférence à la Maison de la Mer le 4, le 3 octobre. Et puis, je prépare un nouveau livre, mais cette fois avec, beaucoup d'espèces et d'images de toute la France, en fait, et même au-delà de la France, toute l'Europe,
ah,
sur les limaces de mer européennes.
Ah, super. On va voir du pays comme ça.
Exactement.
Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Pascal.
Merci, Clotilde.
Voilà, cet épisode d'Al Océan se termine. Je remercie chaleureusement Pascal Girard qui a accepté d'être le premier invité d'Al Océan. J'espère que cet épisode vous a fait autant rêver que moi et que vous allez ouvrir l'œil sous l'eau pour apercevoir ces magnifiques créatures colorées, acidulées, élégantes et fragiles que sont les nudibranches. Allez, je vous laisse avec le titre « Nudibranche » de Daphuncus et je vous fais des bisous. Des bisous salés, bien sûr. Below the surface of the ocean, nudibranches move in slow motion. Do 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 do. Yes, they do. These gastropods defend their bodies with what they eat. Their colors are extraordinary. Little tiny slugs are predatory.